Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Installez-vous confortablement à l'écoute de A Cup of Tea avec Janine Rogers. Nous allons ensemble nous intéresser aux femmes écrivains, dois-je dire aux écrivaines anglaises, pour simplifier, disons, des romancières de langue anglaise. Pour commencer, faisons un peu d'histoire de la littérature. C'est au début du XVIIIe siècle que l'on commence à parler de romans. Auparavant, on connaît des écrivains religieux, des poètes, des dramaturges, comme Shakespeare, des philosophes, des commentateurs politiques, des satiristes, comme Jonathan Swift et ses voyages de Gulliver. Vous remarquerez que ce sont tous des hommes. Et les femmes? Vous allez penser que je les oublie. Sûrement pas. Si je n'en ai pas cité, eh bien, c'est qu'il n'y a eu jusque-là aucune romancière. Je dis bien aucune romancière de langue anglaise. La première dont on retient le nom est la sœur du romancier Fielding, Sarah Fielding. Puis viennent Charlotte Lennox, qui traduisit les œuvres de Cervantes et s'en inspira pour ses propres œuvres, et aussi Fanny Burney, qui écrivit son journal, c'est-à-dire en fait qu'elle ne dépassa pas le cercle restreint de sa vie familiale. Enfin, arrive sur la scène littéraire Jane Austen. Elle renouvela ce genre du roman, et ses œuvres sont encore lues aujourd'hui. D'ailleurs, certaines viennent récemment de faire l'objet de nouvelles traductions et sont publiées en livres de poche. C'est avec elle que nous allons commencer notre périple parmi les romancières de langue anglaise, très nombreuses aujourd'hui. Ses romans parurent entre 1811 et 1817, mais furent écrits auparavant, au moment des guerres contre Napoléon. De cela, Jane Austen est bien loin. Elle mène la vie paisible d'une célibataire de province dans sa famille. D'ailleurs, un critique a résumé, méchamment, l'ensemble de ses œuvres. Je cite « Un village où vivent deux jeunes filles, Monsieur le bon parti y fait un séjour, la chasse au mari est ouverte. » Nous verrons combien cela est ironiquement réducteur. Alors qui donc est Jane Austen? Eh bien, nous allons faire sa connaissance en nous plongeant directement dans l'un de ses romans. Le premier qu'elle a écrit, publié anonymement à compte d'auteur en 1811, « Raison et sentiment ». Jane avait demandé que soient imprimés ces simples mots sur la couverture, écrits par une dame. Une première mouture sous forme de roman épistolaire avait été écrite 16 ans plus tôt, texte que Jane ne cessait de remanier. L'accueil fut bon, car il fut considéré comme un roman didactique. Et je cite un critique, « Les lectrices pourront y apprendre quelques salutaires maximes pour diriger leur vie à travers un récit plaisant et divertissant. » Il fut traduit en français en 1815 et retraduit plusieurs fois sous des titres divers suivant l'époque. C'est l'histoire de la famille Dashwood, qui se compose de 6 garçons et de 3 filles, ces dernières au caractère bien différent. Elinor, 19 ans, jeune fille cultivée, pleine de tact, très réservée, c'est elle qui assumera les difficultés familiales, notamment sur le plan pécuniaire. Elle n'est pas dénuée de sensibilité, mais sera avant tout l'incarnation de la raison. Rappelons le titre du livre, « Raison et sentiment ». Elle éprouve un sentiment profond pour Édouard, jeune homme réservé et timide, mais elle apprendra que sa famille l'a déjà fiancée à une riche héritière. La deuxième fille est Marianne. Elle a 16 ans. Tout le monde la considère comme une beauté. Elle est musicienne. Elle aime la nature et la poésie. Et avec l'aide de sa sœur, elle surmontera la déception d'un premier amour lorsqu'elle apprendra que celui qu'elle aime et dont elle se sait aimée est couvert de dettes et épouse sans amour une jeune fille riche pour libérer ses créanciers. Toutes deux sortiront très meurtries de ces expériences. Margaret, la troisième fille, a 13 ans. Elle observe son entourage et met les siens dans l'embarras car elle ne sait pas tenir sa langue et se fait l'écho des commérages, mettant les uns et les autres dans des situations difficiles. Leur mère, Mrs. Dashwood, a 40 ans, aucun sens pratique, vit dans un monde imaginaire et sa seule préoccupation est de marier ses filles à un riche héritier. Elle est la seconde épouse de Henry Dashwood. Alors, celui-ci a eu un fils, John, de son premier mariage, et donc un petit-fils, Harry, âgé de 4 ans, dont il a fait son héritier. Laissant à sa mort sa seconde épouse et leurs trois filles dans une situation financière difficile. L'histoire romanesque commence au moment de son décès. Rappelons au passage que les femmes ne peuvent pas hériter. Les biens reviennent aux plus proches parents mâles. La plupart de l'action se passe dans les salons, là où les femmes se réunissent pour parler, faire de la musique, dessiner, s'occuper à des travaux d'aiguille et bien évidemment prendre le thé, le cup of tea. N'oubliez pas qu'elles n'ont pas de pièce où elles puissent se retirer. C'est dans la pièce commune à toute la maisonnée que Jane a écrit ses romans, dans le bruit des conversations et des jeux d'enfants. Telle était la condition féminine. Les femmes seules ne pouvaient pas s'intégrer à la société. Elles n'y étaient admises qu'une fois mariées. Jane Austen marie avec bonheur l'art du dialogue par lequel les différences sociales sont mises à jour. Elle sait aussi manier l'ironie, comme dans cette scène, dont je vais vous lire un extrait, entre John, donc le frère des trois sœurs, et sa femme Fanny. John veut obéir à la dernière requête de son père mourant, prendre soin de Mrs. Dashwood, sa belle-mère, et de ses trois demi-sœurs qui sont dans les difficultés financières car elles n'ont pas hérité d'un sou. Fanny Dashwood, c'est donc la femme de John, s'installa en maîtresse à Norland Park. Et sa belle-mère et ses belles-sœurs furent réduites à n'y paraître plus que comme étrangères et presque par grâce. Elles étaient traitées par Fanny avec une froide civilité et par leur frère avec autant de tendresse qu'il pouvait témoigner à d'autres qu'à lui-même, à sa femme et à son enfant. Un jour, John fit part à sa femme de son projet de faire présent à chacune de ses sœurs de 1000 livres. Et comme on peut le penser, elle fut loin de l'approuver. 3000 livres ôtées de la fortune de son cher petit garçon, ce n'était pas une bagatelle. Elle supplia son mari d'y réfléchir encore. N'était-ce pas faire un tort irréparable à son fils unique? Sa conscience lui permettait-elle de le priver d'une telle somme? Et quel droit avait Mademoiselle Dashwood, qui n'était que ses demi-sœurs, ce qu'elle regardait à peine comme une parenté, sur cet excès de générosité? « Vous voulez, dit-elle à son mari, ruiner notre pauvre petit Harry en le privant pour vos demi-sœurs de tout son argent. » « C'est, lui répliqua son mari, à la dernière requête de mon père expirant, que je promis de prendre soin de sa veuve et de ses filles. » Mais il ne savait pas ce qu'il disait, j'en suis sûre, répliqua Fanny. Tous les gens à l'agonie tiennent le même langage, ils recommandent les survivants les uns aux autres, leur tête n'y est plus, ce n'est que le cœur qui parle encore, pour ceux qu'ils ont aimés ou qu'ils sont prêts de quitter. Ces idées n'étaient pas bien nettes. « Mon père, ma chère Fanny, dit John, n'a stipulé aucune somme. Il me demande seulement de rendre la situation de sa femme et de ses filles aussi confortable qu'il était en mon pouvoir. Peut-être aurait-il mieux fait de s'en rapporter tout à moi. Il ne pouvait pas supposer que je les négligerais. J'ai fait une promesse que je veux remplir, et je dois faire quelque chose pour mes sœurs avant qu'elles quittent Norland pour s'établir ailleurs. » « Eh bien, à la bonne heure, quelque chose, dit Fanny, mais il n'est pas nécessaire que ce quelque chose soit 3 000 livres. Passe encore si vos sœurs étaient âgées et que cet argent pût revenir à votre fils, mais vos sœurs sont jeunes et jolies. Si vous les dotez de cette manière, elles se marieront bientôt et vos 3 000 livres seront perdus pour toujours. » « Vous avez raison, Fanny, dit gravement John, parfaitement raison. Le temps peut venir que notre cher fils regrettera beaucoup cette somme, si par exemple il avait une nombreuse famille. » Alors, il s'ensuit toute une discussion. « On ne peut pas savoir ce qu'attendent de vos sœurs, » reprit aigrement Fanny. « Il n'est pas question de se préoccuper de leurs espérances, mais de ce que vous pouvez leur donner. » « Et je trouve que... » « Certainement, l'interrompit John. « Je trouve aussi que 500 livres sont bien suffisantes. » sans que j'y ajoute rien. En l'état actuel des choses, elles auront chacune à leur mort de leur mère 3333 livres, fortune très considérable pour une jeune femme. Discussion continue encore. On parle de rente viagère, mais Fanny dit « N'avez-vous pas observé que rien ne prolonge la vie comme une rente viagère ?» Enfin, Fanny félicite son mari, qui est si bon pour ses demi-sœurs. « Passe encore si c'était vos sœurs, » dit-elle. « Mais tout le mobilier, » dit Fanny, « la porcelaine, la vaisselle, le linge, tout est soigneusement enfermé, et votre père, comme vous le savez, a légué ces objets à sa femme. Leur maison sera donc meublée et garnie au-delà de ce qu'elle pourra contenir. Ainsi, elles n'auront besoin de rien. » « Sans doute, je n'y pensais pas, » dit John. « C'est un très beau legs qu'elles ont eu là, en vérité. » Et la vaisselle, par exemple, nous aurait bien fort convenu pour augmenter la nôtre, à présent que nous recevons souvent du monde. Et Fanny ajoute, « Et le beau service de porcelaine de Chine, combien je le regrette. Il est beaucoup plus beau que celui qui est ici, et suivant mon opinion, 10 fois trop beau pour leur situation actuelle. Votre père n'a pensé qu'à elle. » Mais certainement, vous ne devez pas avoir beaucoup de reconnaissance pour la mémoire d'un père. S'il avait pu, il aurait dû donner tout à vous et rien à elle. Ce serait à mon avis une duperie et une faiblesse dont je vous connais incapable. L'extrême bonté de votre cœur peut quelquefois vous entraîner trop loin. Et finalement, John finit par déclarer que non seulement il serait inutile mais injuste et ridicule de rien faire pour ses sœurs au-delà des petits services de bon voisinage dont avait parlé sa femme. Ainsi, nous passons de 1 000 livres à des bons petits services de voisinage. J'espère que vous avez apprécié l'ironie de ce revirement de situation. Quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain pour voir quels événements de la vie de Jane Austen ont influencé ses écrits et parler de ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre, Orgueil et préjugés.